édition de la mi-journée sur Colline, midi 2, bon vendredi. Voici maintenant toute l'info près de chez nous, présentée par Fabien Gazeau. Bonjour.
Bonjour David, bonjour à tous. Après les faits divers et la politique, vous entendrez un nouveau témoignage d'une maman qui accompagne son enfant handicapé. La réouverture de la Villa Perrochon de Niort ce week-end, l'occasion de découvrir le travail d'un photographe portraitiste qui s'est immergé dans le service psychiatrie de Niort. La troisième édition des médiévales aura lieu dans moins d'un mois, les 21 et 22 mai à Moléon, une grande fête pour replonger dans le Moyen-Âge. Le Cercle des nageurs du Bocage Bressuirais organise un aquathlon le 15 mai prochain pour les amateurs de natation et de course à pied. Une maison en flammes hier soir à Saint-Varan, rue des Platanes, vers 22h15. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Les trois occupants qui ont inhalé des fumées mais qui sont sortis avant l'arrivée des secours ont été conduits à l'hôpital Nord de Sèvres. Delphine Bateau, candidate aux législatives, la députée sortante de la seconde circonscription, brigue un nouveau mandat. Ma démarche, écrit-elle dans un communiqué publié hier après-midi, vise à rassembler pour que notre territoire reste fidèle à son histoire et à ses valeurs républicaines. De justice sociale, de laïcité, de progrès écologique, souligne celle qui dirige Génération Écologie, candidature qui intervient alors que les chefs de file de l'Union Populaire espèrent une coalition à gauche derrière Jean-Luc Mélenchon. Le député Fievé annonce des travaux pour la section de la voie de fret Parthenay-Saint-Varan. Le parlementaire a été informé par le ministère chargé des Transports de l'engagement des travaux de remise en service de cette ligne. SNCF Réseau avait demandé une prise en charge concernant des frais de maintenance et d'entretien, mettant à l'arrêt le projet de réouverture. À l'issue des négociations, la section Parthenay-Saint-Varan a donc été identifiée comme une priorité par l'État qui prendra en charge les surcoûts liés à la remise en service de la ligne. Des discussions sont en cours entre les services de l'État et SNCF Réseau afin de définir rapidement les modalités de début des travaux. On poursuit ce midi notre micro tendu à ces familles qui rencontrent des difficultés d'ordre multiple face à la prise en charge d'un enfant handicapé. Une famille qui se retrouve au sein d'un groupe de paroles et d'échanges au CSC du pays moléonais. On écoute aujourd'hui Michel, la maman d'un petit garçon de 8 ans qui n'est plus scolarisé qu'à 50% du fait de problèmes rencontrés à l'école.
Depuis qu'il est scolarisé à 50%, il est de plus en plus compliqué à gérer. Mais après, il est très bien suivi à l'UMPE. Nous, on a la chance de ça. Et puis, heureusement, parce que financièrement, on ne pourrait pas faire des bilans et tout. On ne pourrait pas du tout. Donc déjà, il a un très bon suivi autour de ça. Après, ce qui est compliqué par rapport à cet enfant, c'est il y a des journées où ça peut se passer très bien et d'autres où il peut faire des grosses crises de colère, où il jetterait des poubelles, des crayons, des livres. Il a du mal à contenir ses émotions. Il ne contrôle pas ses émotions. Pour lui, le monde, c'est soit blanc, soit noir. Il se dévalorise à chaque fois. Dès qu'il n'y arrive pas ou dès qu'il ne se sent pas capable de faire quelque chose, il va s'insulter lui-même. Et tout petit changement, dont le 50%, c'est très compliqué à gérer pour lui. L'école peut nous appeler à n'importe quel moment, qu'on soit au travail ou pas. Et quand l'école nous appelle, il faut qu'on aille le chercher.
Et Michel, comme les autres mamans, témoignera lors des 30 ans du CSC du pays moléonais le 7 mai prochain à la passerelle. Le nombre de chômeurs en baisse sur le département des Deux-Sèvres au premier trimestre 2022 dans le département. Le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité, c'est-à-dire de catégorie A, s'établit en moyenne sur le trimestre à 11 640. Ce nombre baisse de près de 6% sur un trimestre. 5,8% précisément, soit l'équivalent de 720 personnes. La baisse est de 16% sur un an sur ce département des Deux-Sèvres. Réouverture de la Villa Perrochon de Niort ce vendredi soir. Une réouverture après les travaux de réhabilitation du premier et deuxième étage qui accueillent désormais une artothèque et des laboratoires photo argentiques et numériques. Le rez-de-chaussée est lui consacré aux expositions et d'ailleurs il présente à compter de ce vendredi les clichés du photographe parisien Frédéric Stussin, lauréat d'un appel à projet lancé par la Villa Perrochon qui s'adressait aux photographes francophones, les invitant à s'immerger au sein d'un service de psychiatrie. Frédéric Stussin s'est ainsi plongé une semaine par mois durant plus d'un an dans celui de Niort, plus précisément au cœur de la petite cafette. Frédéric Stussin, interrogé par Patrice Bémanangy.
J'ai vendu l'idée de faire des portraits porte-rêves. C'est-à-dire que je demandais aux patients un peu comment ils avaient envie d'être représentés. Ça pouvait être leur visage, ça pouvait être un objet, ça pouvait être un lieu. Et ensemble, on faisait la photo, sachant que moi, j'étais plus, on va dire, le côté un peu technicien. J'amenais des lumières, un cadrage, un appareil photo, et eux étaient à l'initiative de l'image. Et j'ai photographié comme ça près de 80 patients, avec des soignants aussi. J'ai mélangé un peu les deux types de populations, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai photographié aussi un peu l'hôpital, les lieux de l'hôpital.
On peut dire que vous étiez véritablement dans votre milieu, vous qui avez une longue carrière de portraitiste.
Ah ben oui, on sait ce qu'on sait faire. Moi, je travaille depuis presque 20 ans maintenant en presse, et effectivement essentiellement en portrait, donc des écrivains, des acteurs, des hommes politiques. Donc j'ai continué un peu ce travail-là, mais dans un endroit où j'ai pu m'arrêter. Du coup, j'ai pu développer là, parce que j'ai eu du temps. Il y a plein de moments où je faisais pas de photos, où je discutais, où je mettais en place des choses avec les patients. Puis des fois, il y avait juste pas de photos. Plusieurs patients n'ont jamais voulu être pris en photo, et ça m'a pas empêché de passer beaucoup de temps avec eux, discuter, rigoler et échanger.
Le résultat de cette résidence du photographe Frédéric Stussin est à découvrir à la Villa Perrochon à Niort à partir de ce vendredi soir, une exposition qu'il a baptisée « Les interstices ».
La phrase vient d'un des infirmiers qui a beaucoup travaillé, qui s'appelle Eric, et qui dit que les interstices, le soin se niche dans les interstices. C'est-à-dire que le soin psychiatrique, c'est pas forcément des traitements médicamenteux, c'est aussi une attention portée à l'autre, toute discrète, ça peut être un café offert, un sourire, de l'argent prêté pour dépanner, et c'est ce qui peut faire parfois aller mieux.
Les interstices de Frédéric Stussin, expo photo consacrée aux patients et personnels du service psychiatrique de l'hôpital de Niort, à découvrir à la Villa Perrochon donc ce vendredi soir à l'occasion de la réouverture du site, puis du mardi au samedi de 13h30 à 18h30 jusqu'au 3 septembre. Vous avez donc tout votre temps, entrée gratuite. Le 41e salon de peinture de Bressuire est de retour ce week-end. C'est un incontournable dans le calendrier culturel bressuirais. 86 artistes participent à ce salon cette année, c'est la jauge maximale. Pas moins de 153 œuvres sont présentées, majoritairement des acryliques. Vous y découvrirez aussi des huiles, des pastels, des aquarelles ou encore des techniques mixtes et parfois originales. On va en reparler cette fin de semaine avec Francis Paulet, le président de l'atelier d'art Le Grenier. La troisième édition des médiévales de Mauléon, le week-end des 21 et 22 mai, organisée tous les deux ans depuis 2016 au château. L'édition 2020 avait dû être annulée pour cause de Covid. En 2018, plus de 5000 personnes s'étaient retrouvées pour se replonger à l'époque moyenâgeuse, l'espace d'un week-end avec des campements d'époque, des spectacles et des démonstrations. Cette troisième édition ne dérogera pas à la règle, avec plusieurs temps forts qui vont aussi permettre la valorisation du patrimoine de la ville. Pierre-Yves Marolo, le maire de Mauléon.
Mauléon a toute une histoire aussi avec le Moyen-Âge, hein. Bien sûr aussi après avec une autre période, plus les guerres de Vendée, mais le Moyen-Âge, et on est sur un site ici médiéval avec des remparts qui sont, on le sait, classés. Donc c'est important de faire vivre ce site. Autre chose qu'on a voulu, c'est que ça ne coûte pas cher, puisque c'est 1 euro l'entrée pour les plus de 12 ans. C'est un rendez-vous familial avec des temps forts. Je pense entre autres au spectacle de feu qui aura lieu le samedi soir. On est dans l'interrogation pour le spectacle des oiseaux, parce que malheureusement, on le sait bien, il y a la grippe aviaire. Bon, on nous dit que peut-être qu'à partir de la mi-mai, les mesures seraient levées. Donc on espère pouvoir accueillir toutes ces troupes. Avec un temps fort aussi, c'est la parade le samedi après-midi. Ça fait moins rire monsieur le maire, parce qu'il faut qu'il se déguise, c'est pas son fort. Et puis le dimanche aussi, il y a l'attaque du château. C'est toujours assez spectaculaire de voir tous ces passionnés, parce que c'est vraiment des passionnés du Moyen-Âge, se battre pour de rire, si l'on peut dire. Mais c'est vraiment quelque chose de très bien.
Et pendant ces deux jours, c'est une atmosphère d'un autre temps qui s'emparera de la ville, grâce à la présence de 9 compagnies, dont la confrérie du Poitou, basée à Moulins, dans le Mauléonais, en charge de leur sélection. Christophe Faribeau, le président fondateur, également au micro de Patrice Bémanangy.
Nous avons sélectionné des compagnies médiévales qui partent du 9e au 15e siècle. Donc nous retrouverons à cette occasion des compagnies de vikings, des compagnies qui représentent les ordres monastiques, les croisades, ainsi que des compagnies du 14-15e siècle avec des armures beaucoup plus sophistiquées qu'au 10e ou 11e siècle. Vous aurez droit à des présentations de combats, mais également à des divers ateliers présentés sur les campements des médiévistes, ateliers qui seront accessibles au public du plus jeune au plus ancien. Eh bien, nous leur proposerons éventuellement la possibilité de faire et de repartir avec une bourse en cuir, ou alors de faire de la calligraphie, mais également de la confection de bougies et d'autres petits accessoires du Moyen-Âge. En démonstration, vous aurez droit à de l'escrime médiévale, à des présentations de métiers anciens, hein, il y aura des forgerons qui seront là. Nous aurons droit également à des cracheurs de feu.
Et ce ne sont là que quelques exemples, tant le programme est fourni. Le coup d'envoi de ces médiévales à Mauléon sera donné le samedi 21 mai devant la passerelle, où plus de 300 personnes costumées, jongleurs, échassiers, musiciens et autres saltimbanques déambuleront vers le château, théâtre des animations durant tout le week-end. Sachez que les organisateurs des médiévales lancent un appel aux bénévolats. Les années précédentes, ils étaient plus de 70, ils ne sont à ce jour qu'une vingtaine seulement. La 8e édition de l'Aquathlon aura lieu le 15 mai, un retour après 2 années blanches, un retour marqué par un changement de date puisque l'événement organisé par le CNBB, le Cercle des nageurs du Bocage-Bressuret, est décalé de septembre à mai, toujours sur les installations de cœur d'eau, sur le vélodrome et le stade voisin, mis à disposition par l'agglo et la ville. Les explications de Sébastien Chevalier, président du club, et de Bruno Frelon, responsable de la commission Aquathlon.
On change de date, l'Aquathlon était en général au mois de septembre, et là, exceptionnellement, nous le faisons au mois de mai, grâce à l'ouverture du bassin début mai par l'agglomération des Bocage-Bressuret. La première raison, c'est qu'en septembre, c'est vrai que beaucoup sont, on va dire, il y a les rentrées scolaires, le forum des associations, tout le monde n'est pas forcément prêt et les adhérents n'ont pas repris la natation. Alors qu'au mois de mai, on est en cours d'année, on va pouvoir capter plus d'adhérents et c'est le début des triathlons.
Il y a de la nage, il y a de la course à pied, qu'on peut faire soit en individuel, soit en relais, avec différentes distances qui permettent quand même de s'y retrouver et ça se passe sur toute la journée. C'est-à-dire que le matin, on a la distance phare où on fait 1000 mètres de natation et 5000 à courir et ça se passe autour du bassin extérieur de l'agglo. Ensuite, l'après-midi, on a des formats un petit peu plus courts et puis on a un format avec les enfants en fonction des catégories d'âge. Ce qu'on a prévu pour la deuxième fois, c'est un challenge famille et on a ouvert cette année un challenge entreprise et un challenge association.
Le 8e Aquathlon de Bressuire, c'est donc le 15 mai à partir de 8h30. Inscription jusqu'au 9 mai, chaque participant aura un lot. Handball, Celles-sur-Belle reçoit Besançon ce soir à La Clameur. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. En football, en national, Cholet accueille Le Mans ce soir à 19h. Et puis toujours en football en national 2. Sachez que les Herbiers jouent dès ce soir également contre la réserve du SCO d'Angers à 19h.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
S'il y a bien quelques nuages inoffensifs, l'ensemble reste assez bien ensoleillé pour une journée agréable, d'autant que le vent a quasiment disparu. Les températures dépassent cet après-midi les 20 degrés jusqu'à 22-23. C'est à peu de choses près le même type de temps qui nous est annoncé pour le week-end, même si on va perdre 2 degrés chaque jour, pas plus de 18 degrés dimanche. Toute l'info près de chez vous revient désormais ce soir à 18h avec Patrice Bémanangy. Bon après-midi, je vous retrouve demain à 8h.
C'était la météo avec CO.